la session de ce matin avec l'intervention de Pilar. Alors Pilar, je sais pas s'il faut te présenter. Hein. J'ai dû, je peux plus te présenter. Tout le monde te connaît. Simplement dire, on te présente plus. Hein. Voilà. Non
ça,
mais.
C'est quand on dit ça.
Voilà. Donc dire quand même que donc tu es notre collègue ici à l'université et que tu avais fait une première recherche. Ta thèse portait, le titre de ta thèse portait sur le rôle, je cite, le rôle de l'armée espagnole pendant le régime franquiste 1936-1975, sous la direction de Maurice Duverger. Et que voilà, tu es directrice du festival espagnol, etc. Et que tu vas justement nous parler alors d'un passé qui ne passe pas, c'est le titre de la conférence à propos de Federico Garcia Lorca. Et je le vois dans le résumé que tu dis notamment que les combats de la plume et de la caméra furent aussi violents que ceux des armes. Je te laisse la parole.
Merci Jean-Marie. Donc merci à tous ceux qui sont présents ce matin. Dire que mon intervention se situe dans ce qui vient d'être dit par mon collègue et ami Julien Casanova et que certaines des références qu'il vous a données sont des références qui nous sont communes, notamment Gérald Velena, sur lequel je parle souvent en cours, et également d'autres historiens, Preston, etc. Et puis Arturo Balea, qui fait partie d'un recueil sur lequel nous travaillons, notamment une session de recherche. Donc, je n'ai pas amené la bibliographie habituelle, j'ai amené un des ouvrages de Julián Casanova, pardon, et c'est lui que je vous présente souvent, Espagne en partida en dos. Et j'ai amené l'ouvrage qui vient d'être traduit en français, parce que c'est vrai que l'histoire de la guerre civile, écrite souvent par des écrivains ou des historiens anglo-saxons ou espagnols, ce sont des ouvrages qui ne sont pas traduits en français. Et nous avons la chance d'avoir l'ouvrage de Paul Preston, dont a parlé Julián Casanova, Une guerre d'extermination, Espagne 36-45, chez Belin. Et en édition espagnole, et l'Holocauste espagnol. Je pense que ce sont des lectures intéressantes. Et puis, par rapport à ce qui vient de dire Julien, je n'avais pas prévu, mais comme c'était dans mon bureau, j'ai descendu ça. Donc, dans l'image qui est donnée sur la guerre civile espagnole en France, et cette image des violences, des incendies d'église, persécution du clergé, etc., en photo, donc en France, je pense que c'est une bonne référence pour cette image. Et puis, comme je vais parler quand même de Lorca, j'ai amené deux pièces de théâtre sur lesquelles je vais parler à la fin. C'est Publico, le public, et Acte sans titre, qui fera partie de la dernière partie de ma conférence. Donc merci Jean-Marie, merci de me présenter. Je suis contente de partager cet état, puisque nous partageons aussi un cours, un master de recherche sur le sujet les écrivains et la guerre d'Espagne. Donc Jean-Marie Dassus travaille en littérature et moi en histoire. Donc comme le disait Julien, l'espagnol et français a l'avantage de pouvoir croiser les disciplines, la littérature, le cinéma et l'histoire. Donc voilà, Federico García Lorca, un passé qui ne passe pas. Et je commencerai justement par une citation de César Vallejo, un poète sur lequel nous travaillons, qui dit: et ce qui reste, ce n'est pas le souvenir qu'on a d'eux, mais eux-mêmes. Donc voilà. Et la deuxième citation, c'est une citation d'Emmanuel Azaña, président de la République, qui écrivait: une vérité me brûle l'âme, poussée par la barbarie, l'Espagne roule de nouveau vers l'abîme de sa misère, on tardera longtemps à mesurer l'ampleur du désastre, l'immensité du malheur. On forgera une histoire officielle pour les vainqueurs, et peut-être une anti-histoire tout aussi officielle pour les proscrits. Seules les générations qui naissent aujourd'hui pourront comprendre la signification de tout ceci. Ces lignes datées de juin 37 sont extraites du journal intime qu'Emmanuel Azaña, président de la République espagnole, a tenu pendant une période cruciale de la guerre civile, mai-décembre 37, alors qu'il se trouvait dans les environs de Valence. 80 ans après, les différentes générations qui sont nées après le conflit essaient toujours de le comprendre, de l'analyser, de l'expliquer, de le rejeter, de l'occulter ou encore, comme disait Julien, de l'ignorer. Pourtant, depuis les années 1990, les mémoires se sont réveillées et les travaux nombreux d'historiens de différents pays, dont ceux incontournables de Casanova, de Moradiellos, etc., se sont multipliés en renouvelant l'approche. Nous l'avons lu et écrit souvent, des centaines de plumes, dont les plus connues en France sont celles de Bernanos, je pense à Lydie Salvert qui était là il y a quelques semaines, Malraux, Hemingway, Orwell, Camus, Dos Passos, des grands photographes comme Robert Capa, Gérard Darrault, des peintres majeurs comme Picasso, des cinéastes, des journalistes, tous s'employèrent à donner à ce conflit des lettres de légende. Dans cette guerre sur laquelle Tristan Tzara notait qu'elle traversa la poésie comme un couteau, Federico García Lorca, parmi tous ceux qui ont chanté ce que les Anglais appelèrent une guerre de poètes, demeure comme l'artiste mythique par excellence. Sa mort est apparue à l'étranger dans le climat émotif de la mort d'Apollinaire à travers le symbole du poète blessé ou du poète assassiné, avec celui du poète militant, voire soldat. Il faut en chercher la première raison dans le ralliement massif des écrivains de sa génération à la cause républicaine, et la seconde à l'optique du milieu, lui aussi engagé, qui, le premier, répandra en France, en Europe et en Amérique, sa réputation et ses œuvres. Si la mort de Lorca à 38 ans et son absence ont un tel pouvoir de captation sur la mémoire et sur le langage, c'est qu'elle le confronte à son épreuve fondatrice, celle du mot. Et là, les littéraires ont un champ plus vaste à parcourir sans doute que les historiens. Signalons ici une sorte d'ironie au sujet de Lorca. L'idée trop souvent répandue que la gloire posthume de Lorca serait liée à son dramatique assassinat en 36. La mort, insistait souvent Borges, l'a favorisé. Donc je ne donne pas les citations pour ne pas alourdir. Mais cette idée a depuis longtemps été écartée à la faveur de nombreux travaux publiés depuis des années et des années sur l'œuvre complète de ce grand écrivain. Aujourd'hui, de plus en plus, la légende s'estompe avec l'histoire qu'il avait engendrée. Et les déguisements politiques tombent avec l'intérêt qu'il cachait. L'œuvre et le souvenir de Lorca sont désormais soumis à trois courants, jusqu'ici contraires. Le premier les pousse vers le lac paisible des études universitaires et des éditions classiques. Le second les entraîne vers un certain oubli et la dissolution d'anciens patrimoines communs où se perdent noms, visages et titres, avec une partie des vertus singulières qui ont fait d'abord la grandeur de Lorca. On ne sait plus s'il est mort ou vivant, quand ni comment il a été assassiné. On cite Sévère sans le savoir. Le troisième courant se situe au cœur des polémiques ayant trait aux différentes approches qui ont lieu actuellement en Espagne autour de la mémoire historique, et c'est depuis 1976, et qui oppose ceux qui privilégient un usage collectif, public et politique de la mémoire face à ceux qui défendent une mémoire individuelle et privée, car la mémoire demeure toujours un terrain de conflits politiques incessants. Lorca aura à peine vécu ce que les Espagnols, les situant à leur tour par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, ont appelé notre guerre. Il en est mort. On pouvait le comprendre même avant la série des patientes recherches qui ont été menées, par exemple, par Claude Couffon, dès 1962, dont le titre « Agrenade sur les pas de Lorca », par des historiennes, des critiques littéraires et lecteurs passionnés. Je ne citais pas tous les ouvrages, ils seront donc cités dans la publication qui suivra. Les travaux de Gibson écartent en partie les doutes, éclaircissent bon nombre de détails, même si aujourd'hui ce dernier ouvrage, se centrant davantage sur la biographie du poète, sont contestés du point de vue épistémologique et herméneutique. Dans le premier ouvrage, cependant, de Gibson, publié en 1974 dans l'édition mythique de Ruedo Ibérico, dont le titre était « La mort de Federico García Lorca et la répression nationaliste à Grenade en 36 », l'hispaniste irlandais avançait, je cite en espagnol, « Me di cuenta de que sin haberlo pretendido iba reuniendo una masa informe de datos no solo sobre la muerte de Lorca, sino también acerca de aquella atroz hecatombe en que perdieron la vida, miles de granadinos inocentes. Entonces vi que sería un error considerar la muerte del poeta como un acontecimiento aislado y que su verdadero significado solo se podría captar en la perspectiva global de la represión nacionalista en Granada. Et j'ajouterai dans la perspective globale de la répression nationaliste dans le reste de l'Espagne. Donc je vous renvoie à la conférence qui vient de se terminer. Quelle idée se fait-il donc Lorca de la guerre? Quelle relation entretient-elle pour lui avec la révolution, passée, contemporaine ou espérée? Quelle est cette révolution dont le symbole apparaît dans son œuvre et donc dans sa vie? Répondre à ces questions, c'est revenir sur les différentes approches autour de la guerre civile et sur le rôle des intellectuels dans ce contexte. Guerre et révolution dans l'œuvre de García Lorca. Bien sûr, ce n'est pas un travail exhaustif, puisqu'on a un temps imparti, et avec les étudiants, on dit souvent qu'il faut se tenir à ça. Alors, le titre de cette partie est en rapport avec un ouvrage qui fut pionnier de Pierre Bourouet et Milton Temim, publié en France dans les années 60, qui avait comme titre « La Révolution et la guerre d'Espagne » aux éditions Minuit et qui est toujours à la bibliothèque. La guerre semble traverser l'ensemble de la vie de Lorca, de sa naissance à Grenade en 1899 jusqu'à sa mort en 36. Dès avant 1914, les Espagnols ont connu les guerres coloniales de Cuba et des Philippines et celle du Maroc, toujours renaissante. Épopée nationale pour certains, mais pour d'autres, combat d'intérêts supérieurs dont le peuple fait les frais. Chez Lorca, le témoignage sur ces premières guerres coloniales sera mince, à peine ébauché dans la savetière prodigieuse. Les campagnes marocaines, occasion perpétuelle de rébellions et de mouvements sociaux en Espagne, avec en cortège le drame des soldats ennemis de la guerre, en est-il cependant plus proche de Lorca au moment où il évoque dans l'ouvrage Causerie du théâtre, qui fait partie d'un article publié le 31 janvier 1935, et c'est un des sujets sur lesquels Lorca dit « Ce sujet fait partie des thèmes que les gens de théâtre craignent d'aborder. » Moi, au lieu d'hommage, j'organiserai pour le poète et dramaturge des joutes et des défis dans lesquels on se lancerait bravement, clairement à la face. Je parie que tu n'as pas le courage de faire ça, que tu n'es pas capable d'exprimer l'angoisse de la mer chez un personnage, que tu n'oses pas dire le désespoir des soldats ennemis de la guerre. Donc la citation est très importante, très longue, mais je l'écoute. Deux ans avant l'avènement de la République, Federico et d'autres jeunes écrivains de sa génération avaient déjà publié un document qui démontrait leur insatisfaction face à la politique de Primo de Rivera, leur désir de chercher de nouvelles voies politiques et leur intuition de la naissance d'une nouvelle Espagne pleine d'espoir. Ce texte oublié jusqu'à sa réimpression en 1969 dans les œuvres complètes de José Ortega y Gasset peut nous paraître naïf aujourd'hui, mais comme Julien a dit tout à l'heure, hein, l'importance du contexte. À son époque, il est daté d'avril 1929, il signifiait une importante prise de conscience de la part d'un groupe de jeunes qui croyaient que sans de profonds changements politiques, l'Espagne s'effondrerait. Deux mois après avoir signé ce document, García Lorca alla à New York et là, entrant pour la première fois en contact avec la vie d'une ville énorme, il dira « Madrid est un village en comparaison avec cet immense monde », sa vision de l'homme et de la vie moderne s'élargit. Lorca avait toujours sympathisé avec les pauvres et les marginaux, mais il faudra nuancer, Mais à New York, le New York du grand catch de 1929, il vit la souffrance des hommes dans des proportions qu'il n'avait pas soupçonnées jusqu'alors. Tous ceux qui ont écrit sur les poètes sont d'accord sur le fait que l'expérience de New York fut fondamentale pour lui. Là-bas, se confirme sa certitude à la mission humaine de l'art et sa profonde conscience de l'injustice de la société. La preuve en est l'impressionnant ouvrage Poète à New York dont Sonia nous a parlé hier. Quand Lovka débarqua à Cuba après son séjour à New York, un journaliste souligna par ailleurs le grand intérêt du poète pour les problèmes sociaux et politiques. Là, il y a des citations très intéressantes dans la presse cubaine qu'on peut consulter aujourd'hui, mais à dessein, je ne vais pas le faire. Simplement dire que Lorca, comme nous le savons, ne devait jamais perdre son intérêt pour les problèmes d'Amérique latine et en maintes occasions, il exprima sa solidarité avec les révolutionnaires. Je suis sûre que Jean-Marie va parler demain. Le poète revint en Espagne en 1930 et peu après la République fut proclamée. Pour Federico, comme pour les autres signataires du document d'avril 1929, c'était la naissance de cette nouvelle Espagne à laquelle tous aspiraient. Je vais me centrer sur un aspect dont Julien a parlé, c'est l'avènement de Hitler au pouvoir en Allemagne et l'importance que cet avènement va avoir à travers la presse espagnole et les changements que ces changements politiques en Allemagne vont avoir pour la République espagnole et pour les intellectuels. Le 30 janvier 1933, Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne et en juillet, le parti catholique allemand accorda le plein pouvoir au leader nazi qui signa tout de suite un concordat avec le Vatican. Gabriel Jackson fait le commentaire suivant. La montée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, clairement appuyée par la droite traditionnelle, démontra comment les conservateurs espagnols pouvait rapidement collaborer à la destruction d'une république dont la constitution était principalement inspirée de celle de l'Allemagne républicaine. La presse républicaine, que j'avais étudiée pour un article précédent, suivait de près l'évolution de la situation allemande et donnait des détails sur les persécutions sans cesse croissantes dont étaient l'objet les juifs du pays. En 1933, donc, une autre grande guerre pointe à l'horizon. Et bien des gens en ont conscience. La montée du nazisme est généralement perçue à l'étranger comme une nouvelle menace de guerre européenne. Ce thème revient à l'ordre du jour dans le monde artistique qui découvre ou redécouvre alors le théâtre expressionniste et la littérature allemande d'après-guerre, souvent teintée d'antimilitarisme. Le milieu madrilène que fréquente Lorca y est pour sa part attentif. Lui-même annoncera bientôt dans une interview son intention d'écrire, je cite, « Un drame contre la guerre ». C'est un article du 18 février 1935. Il a parlé plusieurs fois de ce projet à un ami, je cite, « comme d'un drame féroce contre la guerre, où la folie actuelle et la légende biblique se mêleraient en un jeu de surimpression étrange, mais des plus vives, avec deux personnages principaux, sur un fond de foule et d'angoisse désolée. Les premiers réfugiés anti-nazis sont arrivés à Madrid. On en rencontre notamment dans le milieu international cultivé que fréquente Lorca, en particulier dans les salons accueillants du diplomate chilien Carlos Morla Lynch, dont les parrainages d'un diario intimo 1928 à 1936 est un ouvrage à consulter sur la venue de ces écrivains à Madrid et notamment l'avenue de Neruda, etc. Pablo Neruda, donc par exemple dans ce journal, est cité abondamment et surtout l'arrivée à Madrid le 1er juin 1934 et cette arrivée qui est vraiment attendue par les intellectuels espagnols à ce moment-là. Pour Lorca, la guerre est bien distincte désormais de l'espérance des hommes. Elle n'a rien à voir avec, je cite, l'aurore collective qu'il se reprend à espérer, même après les massacres qui ont étouffé la révolte des Asturies en 1934. C'était en réalité, et il le dit souvent, une première guerre civile, c'est Lorca qui parle, par son étendue et sa gravité, par les moyens mis en œuvre L'origine du conflit est celle des combattants. La Légion étrangère, aux ordres du général Franco, se chargea de la répression. Mais dans l'esprit des contemporains, l'image, je cite, de la révolution aux Asturies, et je rappelle ici que c'est le titre même d'une première œuvre théâtrale d'Albert Camus, écrite en 1935, et qu'il faudrait peut-être relire avec ce regard-là. Je dis pour les étudiants qui sont en train de trouver des sujets de recherche. Donc voilà. Donc dans cette révolution aux Asturies, Lorca, pour sa part, a senti que cet événement auquel il assistait encore d'un peu loin, mais participait de cœur, prenait place dans une lutte mondiale dont il voulait attendre une espèce de salut. Je cite, « On sent que dans le monde entier, dit-il, des forces luttent pour défaire un nœud terriblement serré. » Ce sont des mots de poète et pas d'historien. « D'où ce raz-de-marée social qui recouvre tout. » Mais alors même, il accepte formellement d'être emporté par ce séisme si la justice doit s'en suivre. Et je recite, là, la justice pour tous, même avec l'angoisse d'un futur que l'on pressent, mais que l'on ignore, eh bien, dit-il, dans ces cas-là, j'abats mon poing de toute ma force sur ce dernier plateau. C'est une interview accordée le 15 décembre 1934. Le mouvement révolutionnaire vaincu en Allemagne n'a pas dit en Espagne son dernier mot avec cette guerre des Asturies, et il en reparle souvent. Au contraire, c'est alors que le poète lui-même fait son choix décisif. Au long du biennio nero qui suit, la résistance politique et la révolte sociale luttent pour se faire jour et n'en paraissent que plus vives. À partir des élections de février 36, qui amènent le Front populaire au pouvoir, l'antagonisme est déclaré. On en trouve les échos au fil des interviews de Lorca, des manifestations publiques auxquelles il a pris part, des déclarations collectives qu'il a signées, avec les groupes des poètes les plus engagés de l'époque, je ne citerai pas tous, Alberti, Cernuda, Neruda, Alexandre. Donc, ces interviews qui sont publiées, qui sont étudiées notamment par Gibson, mais par d'autres, sont intéressantes aussi à voir aujourd'hui dans cette perspective. Le 15 décembre 1934, pour ne citer ici, faute de temps, que cette interview emblématique, parut dans le journal El Sol une déclaration où le poète exprima sans hésitation sa solidarité avec les pauvres de ce monde. Si l'on tient compte de la tension qui régnait alors en Espagne, du développement du fascisme à l'intérieur et à l'extérieur du pays, de la répression asturienne qui avait eu lieu quelques mois auparavant et des événements de Barcelone, emprisonnement d'Assagne par exemple, les paroles du poète acquièrent une évidente signification politique et d'engagement social. L'entrevue fut reproduite le 21 du même mois dans le journal El Defensor de Granada, ce qui nous donne la certitude que les idées de Lorca sur l'injustice sociale furent aussi connues dans cette ville. C'est vraiment une citation qui est vraiment très très connue, donc je vais faire vraiment juste un court extrait. Il disait « Dans ce monde, moi je suis et je serai toujours du côté des pauvres, je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien et à qui on refuse même la tranquillité du néant. » Nous, et je reviens à quelques mots que Julien a dit à la fin de son intervention, nous, je me réfère aux intellectuels qui avons été éduqués dans ces milieux intermédiaires, des classes que l'on peut qualifier d'aisées, nous sommes appelés au sacrifice. Acceptons-le, dans le monde, ce ne sont plus les forces humaines mételluriques qui s'opposent, etc., etc., etc. Donc, c'est une citation qui est très connue, qu'on peut trouver facilement. Le 15 décembre 1935, veille des élections, Lorca signe avec 300 autres personnalités un document appuyant le bloc populaire, comme il disait. En mai 1936, si chargé des tensions politiques, alors que les journaux républicains continuaient de commenter chaque jour les exactions commises par les Italiens en Abyssinie, la persécution des Juifs allemands par les nazis, et le développement du fascisme espagnol, était arrivé à Madrid en représentation du Front populaire français trois écrivains connus du pays voisin: André Malraux, le dramaturge, Henri René Lenormand et l'hispaniste et ami de Federico, Jean Cassou. Là aussi, il y a une correspondance intéressante. Ce fut une semaine d'intense activité politique et intellectuelle, conférence de Malraux et Cassou, à l'Athénée, représentation en espagnol des Assises de Lenormand et de nombreux entretiens avec la presse qu'on peut également trouver. Dans l'importante interview du poète avec les caricaturistes Belgarilia, publié dans El Sol un mois après, le 10 juin 1936, Lorca avait refusé la théorie de l'art pour l'art et s'était solidarisé une fois de plus avec les souffrances du prolétariat, se faisant l'avocat d'un art engagé. Aucun homme véritable ne croit plus maintenant à cette baliverne de l'art pur, de l'art pour l'art. En ce dramatique moment du monde, dit-il, l'artiste doit pleurer et rire avec son peuple. Il faut abandonner les bouquets de fleurs de lys, et là je pense à Marie-Claire Maman qui aurait très très bien étudié ce texte. En ce qui me concerne particulièrement, j'ai une véritable soif de communication avec les autres. C'est pour cela que j'ai frappé aux portes du théâtre et que je consacre au théâtre toute ma sensibilité. Compagnon du monde entier, l'heure est venue de briser les portes, dit-il. Ai-je le souvenir d'autres appels, similaires mais plus célèbres, qui a fait supprimer ces vers ? Lorca a lu et laissé lire Cri vers Rome dans les périodes les plus chaudes de la République espagnole. Il a vu au village de Fuente Ovejuna, quand il est allé avec la barraca, une foule prête à lyncher le commandeur de Lope de Vega, identifié au soppresseur du jour, les grands propriétaires terriens. Il a pu craindre de lancer, sans le vouloir, un appel direct à l'émeute, mais aussi d'être étiqueté et enfermé dans un clan partisan qu'il refusait en même temps. Cependant, le symbole des portes qu'on brise reste en lui. Et je fais référence aux travaux de Marie Lafranque, qui sont toujours très importants. Plus encore, il devient image pure, sans intermédiaire intellectuel, et en ce sens proche à nouveau de la réalité. Je cite « Frappé aux portes du théâtre ». C'est ce qu'il a fait lui-même dans l'espoir de communiquer avec des autres hommes. C'est ce que font les foules se présentant pour monter au pouvoir sur les scènes du monde, d'où on leur épouse de plus en plus brutalement, au fur et à mesure que se lève, dira-t-il dans son entretien, les fascismes européens, puis le nazisme. Ici, révolution et guerre se rejoignent. Dans Le Public 1930 et son titre 1935, et je me rappelle que l'édition française qui était publiée dans les années 80 avait cette manchette, Lorca révolutionnaire. Donc, dans ces deux pièces de théâtre, ces drames qui émergent à la lumière plus de 80 ans après la mort tragique de leur auteur, ces deux drames se déroulent dans un théâtre. Dans le deuxième, le poète y parle en personne. Et cette fois, ce n'est plus au nom de la fiction, mais de la réalité immédiate et presque de l'action directe. C'est pour inviter les spectateurs à sortir et à regarder la ville, pour apprendre à vivre. Il veut leur montrer au théâtre même cette réalité, cette responsabilité qu'il fuit dans la vie quotidienne. Je cite « Ce qui se passe, dit-il, c'est que vous avez peur. Vous me connaissez et vous savez que je veux abattre les murs pour que nous entendions, je coupe la citation, ceux qui sont dehors, ceux qui ne savent même pas que le théâtre existe. Ça vous effraie. » Fin de citation. C'est à la fois la révolte populaire et la guerre, son écrasement immédiat. Je cite, les rues doivent être occupées militairement et on ne nous laisse pas passer. Acteurs et spectateurs s'écrient, fermez les portes, mais l'auteur, ouvrez-les. Le théâtre est à nous, c'est ici l'écho du peuple. Mais pouvait-il lancer ces brandons enflammés dans l'incendie général qui couvait en Espagne en 1935 ? Et surtout, en faisant sauter le théâtre, ne s'était-il pas interdit de recourir à nouveau à ces conventions ? N'avait-il pas prévu lui-même, je cite, « Lady Macbeth ne peut parler quand les rafales des mitraillettes couchent les roses du jardin » fin de citation. Et c'est une citation de la pièce de théâtre sans titre que vous savez ici. Le temps des mitraillettes était venu et c'est désormais dans la rue que les Espagnols allaient jouer toute portée brisée le drame de la guerre civile. Je voudrais donc conclure cette intervention en rappelant que la mort de Lorca demeure encore aujourd'hui chargée des significations politiques parce qu'elle pointe d'une main accusatrice vers le passé et de l'autre vers le présent. Lorca, le non disparu, je rappelle les mots de Julien, sera toujours tel un tribunal de l'histoire dictant une sentence contre un système politique, le franquisme, qui nous sera toujours, lui, contemporain. De même, il nous désigne, nous, en nous interrogeant sur la manière dont nous avons construit le temps que nous vivons, le temps que nous sommes. Conflits mémoriels et luttes politiques s'alimentent constamment. En Espagne, la guerre civile et la mort de Lorca en fait partie, est le miroir dans lequel et par lequel la plupart des conflits politiques sont rejoués, fussent-ils étrangers à l'événement traumatique. Merci.
Merci beaucoup pour cette approche inédite de la création, de la réflexion de Lorca et cette approche littéraire également de l'histoire. Merci.